s'insère dans le monde des non-humains et inversement, grâce à un médiateur privilégié, la parole. Alors, quel usage est fait de l'interlocution ou encore du monologue? Quel type de relation s'opère? Qu'est-ce qui se modifie ou non dans le tissage des liens humains non humains, étant entendu que la parole se présente comme un acte créateur doté d'efficacité et qui vise à transformer radicalement une situation donnée. Et sur ce thème, je dirais, la générale de la parole agissante, performative, eh bien, je rappelle qu'elle a été très bien décrite d'une part par John Austin, dont un travail maintenant, je pense, devenu un classique, a été traduit en 1970, « Quand dire, c'est faire ». Et je ne sais pas si vous avez lu Graham Furniss, « Orality, the power of the spoken words », publié plus récemment en 2004 à Londres. Alors, je vous propose de brefs exemples illustrant trois types de paroles. Des paroles adressées à un humain par un non-humain, des paroles adressées à un non-humain par un humain, des paroles adressées à un non-humain par un non-humain. Un mythe fondateur révèle que c'est Grand Corbeau qui a initié le premier humain à l'échange parlé. La parole n'est donc pas d'origine humaine. Et dans les temps primordiaux, l'humain, qui est dans une phase d'inachèvement, ne vit pas encore dans une société organisée matériellement et intellectuellement, mais voilà qu'après différentes phases d'ajustement, le monde s'ordonne, se complexifie, la société se structure. L'humain devient chasseur professionnel. Prédateur professionnel ou disons prédateur compétent. Et là, on pourrait imaginer que lui-même pensait qu'il soit possible d'abattre le gibier, de s'en nourrir, de s'en vêtir, sans devoir rendre des comptes aux sociétés animales, sans ressentir de la culpabilité. Or, c'est l'inverse qui se produit. Le chasseur modifie le rapport de domination, adresse des paroles affables, polies, à l'animal. L'animal parle un dialecte, mais on ne sait pas très bien, Louis-Jacques, tu m'aideras, qui parle un dialecte, enfin, ils se comprennent. Donc le chasseur modifie ce rapport de domination et il adopte même, là c'est de la gestuelle, un comportement régressif. Par exemple, il rampe au sol comme un enfant pour ne pas effrayer sa proie, ce qui se dit par moto. Il chante pour séduire sa proie, il prononce des incantations avec mélopée ou sans mélopée. En un mot, l'humain reconnaît très humblement qu'il n'est pas la seule forme accomplie d'existence dans l'univers et qu'il doit surtout éviter les rapports potentiellement conflictuels avec les animaux qui sont capables de se montrer autoritaires. Je donnerai un exemple, de sanctionner les comportements irréfléchis et de refuser de se laisser capturer, d'où le rôle central joué par la parole échangée. La position dominante occupée par le chasseur ne va certainement pas de soi. Elle est même toujours aussi mal assumée, aujourd'hui même, dans le sens où les jeunes Inuits apprennent à surmonter le malaise et la peur qu'ils ressentent face à un animal tué sous leurs yeux pour la première fois ou l'animal qu'ils tuent eux-mêmes pour la première fois. Le trouble s'installe, surtout lorsqu'un phoque ou un caribou, un phoque annelé, il n'est pas très gros, c'est vrai, ça pourrait être un morse, c'est plus impressionnant, ou un caribou, si on le voit en contrebas, on a l'impression qu'il est immense, qu'il est aussi gros qu'un orignal. Donc, lorsque un animal apparaît soudainement à proximité, et la proximité est importante, et ce qui est très fréquent, on dit alors « sacré toc ». L'apparition est inattendue, c'est la même situation dans un rêve, dans un cauchemar, ou lorsqu'un esprit survient, un esprit vous apparaît. Un autre terme décrit un surgissement inopiné, naipitak, qui s'applique à un couple, je suis chez les humains quand même, à un couple adultère, autrement dit dans notre langage, pris la main dans le sac. c'est de l'ordre de l'indiscrétion, nous le savons. Mais ce même terme, désigne également un animal qui est vu soudainement, de très près, ce qui peut être considéré comme une immense indiscrétion, et peut-être nous en parlerons. L'embarras est suscité par le regard, certes fugace, néanmoins échangé. Le regard fait l'événement. Et là, vous me pardonnerez de glisser, mais je ne peux pas m'en retenir. Voilà, j'ai pensé à Emmanuel Lévinas. Vous me direz, il n'a sans doute pas beaucoup parlé du rapport humain non humain. Emmanuel Lévinas, qui dit « On ne tue pas », dans son ouvrage « Totalité et infini », qui dit « On ne tue pas quelqu'un qui vous regarde ». Et il ajoute « L'autre me regarde dans le sens où j'en suis responsable. Autrui n'est pas proche, mais il est proche parce que je suis responsable de lui. » Bref, le visage d'autrui commande une responsabilité. Et puis, je me permets, si vous voulez parler de Lévinas, j'espère que vous ne m'en ferez pas le reproche, parce que je pense qu'il n'est pas exagéré de considérer que les animaux ont, du point de vue de beaucoup de sociétés de chasseurs, un visage. Je ne dis pas une face, je dis bien un visage, car on leur reconnaît une composante spirituelle, immortelle, enfin appelée Inua dans beaucoup de cultures inuites. J'ajouterais qu'on tue difficilement un animal qui vous adresse la parole. Je vous propose donc de nous arrêter à quelques paroles échangées entre humains et non-humains. Et je vous propose d'abord des paroles adressées d'un chien à un homme. Ah, vous les avez sous les yeux. Alors peut-être, puisque vous les avez sous les yeux, je vais le lire en inuktitut. Angotilar, oui, ma djangi maripote, parute gannok, rovia sopogok, tako gearkudlomik nutamik. Angotilar, royali vagrit, asuyuti li hattaravit, odlotamat. Le texte est de Taiviti Naudlau. Naudlark, excusez-moi. Que dit cette parole animale? Je n'en sais pas tout. Néanmoins, je pense qu'elle dit « Continuez à nous aimer, nous les chiens », c'est-à-dire « Continuez à nous parler ». C'est une parole qui peut aussi se lire comme la réhabilitation d'animaux bafoués, récemment bafoués. Comme vous le savez, pour sédentariser les Inuits, le gouvernement canadien avait décidé d'éliminer les « rimit », les chiens. Beaucoup ont été abattus. Là, on peut se référer aux travaux de Francis Lévesque qui est ici et que vous entendrez. Du fait de ce geste politique irresponsable qui portait atteinte à la dignité inuite en sapant l'un des fondements de la culture, eh bien, certains Inuits ont dénoncé un assassinat et pris une position à caractère linguistique en demandant le bannissement du terme « sled dogs », donc attelage de chien, dans tous les textes rédigés en anglais, tant la désignation est jugée méprisante. Et là, il faut consulter la belle thèse de Carole Cancel, publiée en 2011. L'argument s'appuyait sur la conviction que les « rimit » ne sont pas réductibles à des bêtes de trait. Autrement dit, le mot « sled dogs » est reçu comme une parole négative, c'est-à-dire celle qui provoque une brûlure, ce qui se dit en inuktitut « rasiliork ». La parole négative, brûlante, celle que l'on ne veut pas entendre, celle que l'on ne doit pas entendre. L'auteur du texte, Taiviti Naudlark, épouse le point de vue d'Orkremark, le chien, sans décrocher de la réalité. Il nous fait tout simplement entendre une voix insistante, celle d'un Inuk qui, comme ses prédécesseurs, reconnaît l'hypersensibilité des non-humains à la parole humaine. Et vous noterez que le chien et l'homme partagent des marqueurs sociaux forts. Le chien attribue un nom personnel à l'humain qui l'augmente d'un suffixe affectueux, l'arc, et il l'appelle angoutilark, petit homme. C'est un rappel, par un effet de miroir, d'une pratique qui veut que les chiens reçoivent, nous l'avons dit, un nom personnel. Autrement dit, Remarque occupe, par rapport à d'autres animaux, une position privilégiée à la frontière de l'humanité et de l'animalité. Le texte de Taiviti Naudlark a été écrit à Iqaluit, au Nunavut, dans l'Arctique canadien, au début des années 1990 et publié à un moment où circulait un mot d'ordre. Tétéralérité, écrivez. On cherchait à encourager la poésie inuite, comme si elle n'existait pas, hein. Donc la poésie inuite écrite, parce que le poème était vu comme une forme d'expression et d'esthétique universelle. Et il est pour le moins ironique que le texte de Taiviti traite de la parole adressée d'un non-humain à un humain, alors que le texte a évidemment été publié. Autrement dit, on peut produire de la culture en changeant une forme, donc on passe de l'oral à l'écrit, tout en restant très proche de l'oral, de ce qui se dit à l'oral. Donc, produire de la culture ne signifie pas construire à partir de l'inexistant, et Taiviti Naudlark s'inscrit dans une tradition qui s'appuie sur la conviction que les signes sont interchangeables entre les humains et les non-humains. Il existe dans la littérature ethnographique de nombreuses prises de parole par un non-humain. Je ne vous en donne que deux exemples. D'abord, un récit entendu par Knud Rasmussen. Un caribou veut traverser une rivière. Avant de s'élancer, prudent, il crie « Y a quelqu'un de l'autre côté ?» Personne ne répond. Il crie à nouveau « Y a quelqu'un de l'autre côté ?» Aucune réponse. Il se dit « Il y a sûrement quelqu'un, mais personne ne répond. » Il s'engage à la nage. Juste à ce moment-là, surgit un homme en kayak. L'homme lève sa lance pour le tuer. Le caribou dit « Attends l'automne, ne frappe pas maintenant. Si tu me laisses libre, jusque-là, ta femme aura de la graisse de qualité. » L'homme lui laisse la vie sauve. Arrivé sur la rive, le caribou se dit « Je suis vivant, l'homme ne m'a pas tué. » En fait, ce caribou n'est pas dupe. Le chasseur avait dissimulé ses intentions. Somme toute, les humains sont psychologiquement faibles, fragiles, jamais à l'abri d'un faux pas, d'une mesquinerie. Et ici, on a un bel exemple d'un humain qui veut ruser, tromper un animal et qui échoue pour avoir sous-estimé les capacités perceptives de l'animal. Ce récit n'appartient pas au genre narratif que nous pourrions qualifier de fable, qui se conclut par une morale. S'il y en a une, elle se laisse deviner au motif qu'un espace de liberté d'interprétation est toujours laissé à l'auditoire. Les récits n'ont jamais pour vocation d'expliquer, mais de suggérer. Ils s'adressent à des personnes dont l'expérience, la trajectoire de vie, la sensibilité, l'âge sont différents. Personne, pense-t-on chez les Inuits, ne reçoit le même message au même moment, de la même manière. Un second exemple est rapporté par Spencer en 1959. Un chien, victime de la brutalité de son maître, se révolte contre l'injustice. Il s'immobilise. Que fait-il ? Il enlève soudainement la peau de sa tête comme on enlève une cagoule. Il se retourne vers son maître et lui demande des comptes. Saisit l'Inuk, perd connaissance. Il faut, disent ceux qui ont des attelages à chiens, chercher à savoir de manière discrète, subtile, indirecte, ce que pensent les chiens, surtout la chienne de tête, ce qui se dit nautsitorpa. Il s'interroge sur les intentions de l'autre, donc tout n'est pas dit. Hein. Un chien à qui on ne donne pas d'ordres irréfléchis peut même, dans une tempête, retrouver le chemin du retour. Alors, que dire des deux derniers exemples ? J'essaierai de ne pas être moralisatrice, sinon que l'animal aide l'humain à devenir lui-même et à donner le meilleur de lui-même. Maintenant, des paroles d'un humain à un non-humain. Nous allons entendre un chant. Juste avant, je voudrais vous dire qu'il s'agit d'un chant au tambour, mais nous n'aurons pas le temps là, de tout percevoir, du nord-ouest du Groenland, enregistré en 1962, interprété par Kigutikaktunak, Il s'agit d'un court extrait inséré dans la trame narrative d'un mythe très connu au Groenland et dans l'Arctique canadien, qui raconte que Anuri Tork, une femme qui a perdu un enfant, adopte un Nanuarak, c'est-à-dire un ourson. L'ourson est un mâle, il grandit, il assume le rôle de pourvoyeur en rapportant de la viande fraîche de phoque à sa mère adoptive. Mais voilà qu'il se met à voler les provisions des autres chasseurs qui décident de le tuer. Désespéré, Anuri Tork interpelle son enfant. Nanu, Nanu. Donc nous allons entendre une partie du récit. Parce que là, le chant est comme une incise, hein, une parenthèse qui vient s'insérer. Michael Hauser, un spécialiste de la musique groenlandaise, souligne que les chants qui figurent ainsi comme des incises hein, dans une narration et qui la ponctuent ne sont pas accompagnés au tambour, sauf dans le cas où il s'agit d'un franchissement des frontières humain-non-humain, comme dans Nano, Nano, sauf que là, on ne peut pas en entendre davantage. Et la structure du motif musical est alors simple, avec un effet descendant. Ce chant a connu récemment un immense succès. Il a fait l'objet d'un CD, Thule Spirit, donc réarrangé, hein, bien sûr. Le théâtre Tukark, un théâtre inuit, une troupe inuit, qui apprécie les rythmes pulsés, électro, pop, polaire, et ainsi de suite, l'a largement diffusé. Donc, ce n'est pas la version que j'ai voulu vous faire entendre. Ce n'est pas la version boîte de nuit, quoi. Et l'éruption du chant dans une narration est encore aujourd'hui très fréquente parce que le chant, chez les Inuits, est ce que nous nommons, nous, poésie, inspiration. Mais les paroles qui composent le chant inuit viennent du monde des esprits et du monde des défunts. Ce sont des pensées qui résident dans la voûte céleste et qui se mettent à circuler lorsqu'on les convoque ou encore des pensées qui tombent d'elles-mêmes. Alors, je vais terminer. Ce sera très, 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 très court. Voilà, je vais vous le dire. Donc, c'est une formule toujours d'un humain à un non-humain, mais il s'agit de la parole d'un enfant. Et il existe, si vous voulez, des formules brèves utilisées par les tout jeunes qui s'exercent à la chasse. Encore malhabiles, les enfants effraient le petit gibier qui s'enfuit. Pour le retenir, il s'adresse à lui de la manière suivante. Alors, il y a une formule qui est destinée au lièvre arctique, à Ukaliarjuk. Et la formule est la suivante. Itikoloa, itikoloa, ce qui veut dire son mignon petit derrière, son mignon petit derrière. Et le lièvre arctique, honteux qu'un humain évoque cette partie de son anatomie, cherche à la cacher. Alors évidemment, qu'est-ce qu'il fait? Il se pose sur ses pattes arrière, autrement dit, en position assise, il est plus vulnérable et on l'approche alors plus facilement. Et ce n'est pas à un autre niveau de sophistication, sans rappeler que les adultes disaient à la baleine boréale blessée « Saema, Saema, reste calme » et qu'elle le comprenait, que la mise à mort en était facilitée. Donc, je vois que le temps qui m'est imparti ne me permet pas de parler de la parole des non-humains aux humains, mais les discussions seront peut-être là pour le faire.